bien, nous allons nous recueillir, invoquer l'Esprit Saint. On peut considérer l'âme comme un château qui est composé tout entier d'un seul diamant ou d'un cristal très pur, et qui contient beaucoup d'appartements, ainsi que le ciel qui renferme beaucoup de demeures. Ces premières lignes du livre des demeures introduisent à toute la doctrine et surtout à l'expérience de Sainte Thérèse. Et elles s'empressent de préciser notre dignité. Il suffit que l'âme, comme Sa Majesté nous l'assure, soit faite à son image, pour que nous concevions quelque chose de son excellence et de sa beauté. L'image de Dieu inscrite dans notre âme est en effet le fondement de la doctrine de l'Église sur l'inhabitation divine et le commencement de l'orientation de notre existence. Tout le monde sait ce que c'est que d'habiter dans un pays. On habite là où on se sent chez soi, dans un lieu qu'on a acquis, un lieu qu'on détient, qu'on possède. Ce que dit très bien du reste le mot français « habitat » ou « habitation ». Du latin « habere »,« habitum ». Mais l'habitation évoque aussi non pas seulement le lieu qu'on occupe, mais les habitants, ceux qui viennent habiter quelque part, comme aussi ceux chez qui on vient habiter. L'habitation suppose des relations entre les uns et les autres. Et on peut dire que le génie de Sainte Thérèse a été d'aider les chrétiens à établir des relations avec Dieu lui-même, pour en vivre, pour en être transformé. Jésus l'a dit à ses disciples au soir de la dernière scène, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole » et mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui, et nous ferons chez lui notre demeure, notre habitation, notre temple. Je vous ai dit ces choses, dit Jésus, alors que je demeurais avec vous. Mais le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous rappellera et vous enseignera tout ce que je vous ai dit. Il viendra lui aussi. Comment rencontrer les trois personnes divines présentes dans le diamant de mon âme ? La grâce représente chez nous la grande nouveauté, cette nouvelle naissance, ou bien la justification dont parle le Concile de Trente. Voilà ce qui transforme, ce qui bouleverse notre existence. Voilà le changement intervenu en nous de la part de Dieu. Cette participation à sa vie qui se produit en nous a pour cause non pas l'une ou l'autre personne divine, mais les trois personnes ensemble dans l'unité de leur causalité créatrice, leur substance. La grâce, si on l'envisage comme un effet créé dans l'être humain, la grâce prise comme telle, définie par le Concile de Trente, cette grâce équivaut à l'habitation de la Trinité, c'est vrai, l'habitation des trois personnes en commun, mais non pas à l'habitation des trois personnes en particulier. Eh bien, Sainte Thérèse, dans la relation du 22 septembre 1572, écrit, vous l'avez sous les yeux, « Ce qui me fut représenté, ce sont trois personnes distinctes que l'on peut considérer et entretenir séparément. » C'est notre premier texte. De toute évidence, il ne s'agit pas, par cette expression, de l'habitation de la Trinité en commun, mais de l'habitation des trois personnes en particulier. Mais elle s'empresse de souligner un point de théologie trinitaire capital. Ces personnes, continue-t-elle, se connaissent, s'aiment et communiquent entre elles. Mais si chaque personne est distincte, comment disons-nous qu'elles n'ont toutes trois qu'une seule essence? De fait, c'est là ce que nous croyons. C'est une vérité absolue pour laquelle je souffrirai mille fois la mort. Ces trois personnes n'ont qu'un seul vouloir, un seul pouvoir, une seule souveraineté, de sorte qu'aucune d'entre elles ne peut rien sans les autres, et qu'il n'y a qu'un seul créateur de tout ce qui est créé. Le Fils pouvait-il créer, pourrait-il créer une fourmi sans le Père? Non, parce qu'ils n'ont qu'un seul pouvoir. Il en est de même du Saint-Esprit. Ainsi, il n'y a qu'un seul Dieu Tout-Puissant, et les trois personnes ne forment qu'une seule majesté. Quelqu'un pourrait-il aimer le Père sans aimer le Fils et l'Esprit-Saint? Non. Mais celui qui se rend agréable à l'une des trois personnes se rend agréable à toutes les trois, et celui qui offense l'une d'elles offense les deux autres. Le Père peut-il exister sans le Fils et sans l'Esprit-Saint? Non, parce qu'ils n'ont qu'une même essence, et là où se trouve une des personnes, se trouvent les deux autres, parce qu'elles ne peuvent se séparer. Les trois personnes ont concouru à cette œuvre merveilleuse de l'incarnation. Je mentionne un peu plus loin l'action commune des trois personnes dans l'incarnation. Que découvrons-nous dans cette vision imaginaire dont elle dit qu'elle est conforme à ce qu'elle a entendu des théologiens? Par ces théologiens qui l'ont instruite, Thérèse connaît la loi d'airain de la théologie trinitaire. En Dieu, tout est un, dès lors qu'il n'y a pas d'opposition de relation. Dieu ne vient pas habiter en nous sans être le Père, le Fils et l'Esprit-Saint ensemble. Et nos relations ne doivent pas être conçues comme une relation avec le Père, et puis avec le Fils, et puis avec l'Esprit séparément. Nous sommes en relation avec le Dieu unique. Depuis le concile de Florence en 1439-1445, concile qui a été long, on sait que dans l'Église catholique, on ne peut pas se contenter de dire « Chacune des personnes a une relation particulière avec nous. Le Père est celui qui nous crée, le Fils est celui qui nous sauve, l'Esprit-Saint est celui qui nous sanctifie. » C'est une illusion. Je me dis, j'ai trois personnes qui se différencient facilement dans ma vie, et puis tout se simplifie. Tout se simplifie, mais j'évacue l'essentiel du mystère, à savoir que les trois personnes agissent de concert, comme Sainte Thérèse l'a souligné si fortement tout de suite. Parce que le fait d'être créateur n'est pas en réalité propre au Père, de même que le fait d'être sauveur n'est pas une propriété personnelle du Fils, pas plus que le fait d'être sanctificateur n'est une propriété personnelle de l'Esprit-Saint. Ces relations ne sont pas opposées. Les seules relations qui distinguent les personnes l'une de l'autre sont des relations qui se réalisent en Dieu, à l'intérieur de Dieu. Les relations provenant de l'action de Dieu sur nous ne sont pas des relations opposées. La création d'une part, le salut des hommes d'autre part, leur sanctification, n'implique entre l'une et l'autre de ces actions aucune opposition. Ces actions, les relations qui en découlent, sont donc communes aux trois personnes. Ce sont des actions de Dieu. Ceci étant établi fermement, nous dirons que ce sont les trois vertus théologales qui représente la possibilité pour nous de rencontrer les trois personnes en particulier, de les entretenir séparément, en mettant en jeu les activités de connaissance et d'amour que permettent la foi, l'espérance et la charité. Cette vision de la Trinité que nous venons de relater dans la relation Sainte-Thérèse est un bel exemple de ce que, par la grâce sanctifiante, les personnes divines sont reconnus de façon distincte et en même temps, la personne, l'âme, rencontre les personnes divines, mais cette personne-là n'est pas dans une situation telle que chaque personne divine a une relation particulière avec elle. Voilà donc la première étape dans notre étude de l'inhabitation des personnes divines chez Sainte Thérèse. Un texte très précieux et clair. Toutefois, à la fin de sa grande synthèse de l'itinéraire d'union avec Dieu, donc dans le livre des demeures, La Madre va relater une expérience plus précise encore de la Sainte Trinité que celle de la relation 33. Plus précise, car les effets de la grâce au point culminant des missions invisibles des personnes divines dans l'âme sont, comme l'enseigne saint Thomas, l'instruction donnée à l'intellect et l'embrasement de la volonté aimante. Illuminatio intellectus et inflammatio affectus. Saint Thomas ne dit pas simplement la connaissance de l'intellect ou bien l'amour du cœur, mais il faut une connaissance qui soit une illuminatio, et puis il faut un amour qui soit inflammatio. Il faut flamber d'amour. Et précisément, les effets donc de la mission, des missions bien visibles des personnes divines dans l'âme. Et précisément, Sainte Thérèse mentionne, à propos du mariage spirituel, au chapitre 1er des septièmes demeures, la grâce de la vision intellectuelle de la Sainte Trinité. Et elle commence par rappeler ce qu'elle disait aux premières demeures, à savoir que, vous avez le texte, « Toutes, nous avons une âme, mais nous sommes bien loin de lui porter l'estime que mérite une créature faite à l'image de Dieu. Et voilà pourquoi les profonds secrets qu'elle renferme nous demeurent cachés. » Et parmi ces grands secrets que l'âme à l'image de Dieu renferme, toujours l'image de Dieu, donc le fil conducteur, il y a la faveur dont elle s'apprête à parler. Alors tenons-nous bien sur nos gardes. Repérons d'abord le thème principal de la demeure en nous. En nous. Vous allez voir combien c'est problématique. Avant tout, au-dedans d'elle, je poursuis la lecture, il y a un séjour pour Dieu même. Lors donc que ce grand Dieu daigne accorder à une âme la grâce de ce divin mariage, il commence à l'introduire dans sa propre demeure. Vous voyez la question? La demeure de lui ou d'elle? C'est, vous le voyez, en tout cas, le mystère de l'inhabitation et donc des relations avec les trois personnes divines qui est en cause. Et elle précise, continuons au numéro 5. Mais il veut que les choses se passent tout autrement que dans les ravissements et l'oraison d'union où déjà il l'unissait à lui d'une certaine manière. L'âme alors ne se sentait pas appelée à entrer en son centre avec cette force qui l'y invite en cette demeure. Elle n'était attirée qu'en sa partie supérieure. Du reste, que ce soit d'une façon ou d'une autre, cela importe peu, parce qu'il y a union dans l'un et l'autre cas. La Madre souligne immédiatement, voyez, l'effet psychologique de cette nouvelle façon pour les personnes divines de se présenter à l'âme dans son centre. Elle pense à ce qu'elle vivait auparavant, et elle précise juste après, jusqu'ici, quand le Seigneur unissait l'âme à lui, c'était en la rendant aveugle et muette comme saint Paul au moment de sa conversion. Il lui ôtait ainsi le moyen de savoir quelle était la faveur dont elle jouissait et comment elle en jouissait. Les immenses délices dont l'âme se sentait alors inondée venaient de ce que l'âme se voyait près de son Dieu. Mais au moment même où elle se trouvait unie à lui, elle n'avait plus aucune connaissance. Les puissances étaient entièrement perdues. Sainte Thérèse veut faire comprendre que l'union avec Dieu au cinquième demeure et au sixième demeure n'est pas de même qualité que celle à laquelle nous allons assister. Ici, il en va tout autrement. L'âme entre vraiment dans son centre le plus profond. Et voyez ce qui caractérise cette union. Numéro 6. Il plaît alors au Dieu de bonté qui est le nôtre de faire tomber les écailles des yeux afin qu'elle comprenne, mais par une voix extraordinaire, quelque chose de la faveur dont il la gratifie. Vous voyez, ces puissances ne sont pas entièrement perdues comme elles l'étaient dans les cinquième, sixième demeures. Et voilà enfin, Thérèse va signaler maintenant l'effet tellement caractéristique de cette vision intellectuelle de la Sainte Trinité, pressentie par saint Thomas, dont je vous ai parlé déjà, une connaissance en même temps qu'un amour enflammé. Une fois qu'elle est introduite dans cette demeure, les trois personnes de la très sainte Trinité, dans une vision intellectuelle, se découvrent à elles par une certaine représentation de la vérité, voyez pour la connaissance, et au milieu d'un embrasement, inflammatio, qui, semblable à une nuée resplendissante, vient droit à son esprit. Les trois personnes divines se montrent distinctes et, par une notion admirable, encore la connaissance, notion admirable qui lui est communiquée, l'âme sent avec une certitude absolue que toutes trois, alors vous voyez encore la loi d'Airain du Concile de Florence, que toutes trois ne sont qu'une même substance, une même puissance, une même science et un seul Dieu. Ainsi, ce que nous croyons par la foi, l'âme, on peut le dire, le perçoit ici par la vue, vision intellectuelle. Et cependant, on ne voit rien, vision intellectuelle non imaginaire, ni avec les yeux du corps, ni avec les yeux de l'âme, parce que ce n'est pas une vision imaginaire. Vous verrez dans mon texte, enfin, quand il sera à votre disposition, la distinction que saint Thomas fait dans son étude de la prophétie entre la vision intellectuelle et la vision imaginaire. Question 160. 12 de la Seconda Seconde, je crois. Alors, revenons à notre texte après cette petite aparté. Vous voyez, alors, nous terminons notre lecture. Ce n'est ni avec les yeux de l'âme, mais parce que ce n'est pas une vision imaginaire. Alors, les personnes divines, les trois, se communiquent toutes trois à l'âme, elles lui parlent et lui découvrent le sens de ce passage de l'Évangile, le texte de base, où notre Seigneur annonce qu'il viendra avec le Père et l'Esprit Saint, trois personnes, habiter dans l'âme qu'il aime et garde ses commandements. Jean 14, 23, bien sûr. La base du dogme de l'inhabitation. On comprend pourquoi la Madre a commencé par rappeler la grandeur de l'âme. Dieu n'est pas seulement dit être dans la créature rationnelle, mais encore, il y habite comme dans son temple, sa demeure. La condition suffisante mais indispensable pour qu'une telle union avec les trois personnes se réalise, nous l'avons dit, c'est la grâce sanctifiante. C'est du saint Thomas que je cite. La grâce réalise en nous une présence, une habitation des trois personnes ensemble. Et au septième demeure, à propos de cette faveur du mariage spirituel, ce que sainte Thérèse décrit n'est que l'épanouissement des ressources de la grâce sanctifiante, des vertus théologales, qui par l'opération de connaissance et d'amour, les vertus théologales font habiter en soi non seulement la Trinité elle-même, mais font prendre contact avec chacune des trois personnes que l'on peut considérer et entretenir séparément. Ce sont les vertus théologales, vous voyez, la connaissance de foi, représentation de la vérité, illuminatio, dans le texte de sainte Thérèse. Cette connaissance de foi est nécessairement accompagnée d'une affection d'amour dans la volonté, au milieu d'un embrasement, inflammatio. Entendons, ces puissances ne sont pas alors entièrement perdues, incapable d'opérations de connaissance et d'amour comme elle l'était dans le ravissement et l'oraison d'union des cinquièmes et des sixièmes demeures. Alors l'âme ne se sentait pas appelée à entrer en son centre. Elle n'était attirée qu'en sa partie supérieure. Maintenant, les puissances, l'entendement et la volonté ne sont pas suspendues. L'âme contemple et comprend. Les trois personnes se découvrent à elles. Ce sont les expressions de la Madre. C'est dire que les puissances sont en acte unies à chaque personne divine. L'entendement au Verbe par la foi et la volonté à l'Esprit Saint par la charité. C'est pour cette double opération de connaissance et d'amour que l'âme est élevée par Dieu à son centre, c'est-à-dire à ce maximum d'actualité de ces opérations théologales, alors que dans le ravissement, quand le Seigneur unissait l'âme à lui, c'était en la rendant aveugle et muette. Ici, au contraire, les personnes se communiquent toutes trois à elle, elles lui parlent et lui découvrent le sens des paroles du Seigneur, et l'âme, maintenant, a le moyen de savoir la faveur dont elle jouit et comment elle en jouit. Voyez le mystère. L'image de Dieu en nous peut être plus ou moins ressemblante à son modèle. Et parvenue à ce sommet, en mariage spirituel, ça y est, l'âme ressemble à Dieu. Elle participe à fond à la vie des trois personnes dans l'actualité des opérations de connaissance et d'amour surnaturel que sont la foi et la charité. L'espérance aussi est là, mais dans le fond de l'âme. Résumons le chemin parcouru jusqu'ici. Lorsqu'on affirme que les personnes divines viennent habiter en nous, et c'est bien ce qui se produit dans la vision intellectuelle de la Sainte Trinité, on doit interpréter cette venue, cette habitation, dans le sens d'un événement, dans le sens d'un changement, oui, mais qui se produit en nous et non pas dans la vie des personnes divines. Il s'agit d'un changement qui nous rend présente d'une manière tout à fait nouvelle les personnes divines, et cette fois dans leur personnalité même. C'est le sens le plus profond que nous donnons à ce mot de « venue », d'habitation. Il est entendu qu'elles sont là, cette fois, d'une manière toute nouvelle, mais cette nouveauté, elle est à mettre à notre compte. C'est nous qui nous trouvons dans une situation nouvelle par rapport aux personnes divines. Cette situation nouvelle étant précisément leur habitation, leur présence tout à fait intime cette fois, et personnelle, actuelle, comme le connu est dans le connaissant, et l'aimé dans l'aimant, comme dit saint Thomas. Dans la vision intellectuelle de la Trinité, ce sont simplement les opérations des vertus théologales qui sont portées à leur point culminant par la présence agissante des trois personnes. Les personnes divines, si vous voulez, prennent en charge nos opérations mêmes de foi et de charité. Et c'est pour cette raison que sainte Thérèse ajoute, voyez notre texte, quelle différence entre écouter ces paroles de Jésus, si quelqu'un m'aime, les croire même, ou comprendre par la voix que je viens de dire à quel point elles sont vraies. Cette âme est dans un étonnement qui grandit tous les jours, parce qu'il lui semble que depuis lors, ces trois personnes divines ne l'ont jamais quittée. Elle voit clairement, de la manière déjà mentionnée, qu'elle réside en elle. C'est la partie la plus intime d'elle-même qu'elle sent cette divine compagnie. Toujours, la septième demeure. Que dire à propos de ce centre de son âme, cette fameuse septième demeure, en fait, dont elle parle? Il me semble que sainte Thérèse cherche, comme tous les mystiques, à traduire le mystère d'un point de contact entre Dieu et son âme. Le point de contact, ce que maître Eckhart appelait la fine pointe, le fond, le centre. Ce mystère du point de contact entre moi et l'être de Dieu, l'être divin. Eh bien, ce point de contact où les trois personnes se donnent à distinguer objectivement à l'opération de connaissance et de foi et l'opération d'amour, de charité. C'est ça le centre de l'âme. Vous le voyez, une nouvelle distinction s'impose maintenant. Le Dieu Trinité, qui était simplement envisagé aux premières demeures, l'âme lui est pleinement unie désormais, actu, comme dirait saint Thomas, actuellement. Car l'être humain ressemble à Dieu en le connaissant et en l'aimant, mais soit habituellement, soit actuellement. Ici, dans la vision dont parle Thérèse, c'est bien actuellement que que la madrie connaît les trois personnes. Mais la madrie ne se contente pas de parler de ce qu'elle voit de la Sainte Trinité. Dans le même temps, elle observe un changement par rapport à ce qui lui arrivait au cours des visions extraordinaires des sixièmes demeures et même de l'union des cinquièmes demeures. Vous croyez peut-être, nous continuons notre lecture, nous croyez peut-être que cette âme est comme hors d'elle-même et dans un tel transport qu'elle ne peut s'occuper de rien. C'est le contraire. Elle a beaucoup plus de facilité qu'auparavant pour s'employer à tout ce qui est du service de Dieu. Tels sont les fruits de cette union aux trois personnes divines. La madrie n'est pas gênée par la vision intellectuelle de la Sainte Trinité. Elle sent cette divine compagnie, bien entendu, mais la vision de cette présence divine ne reste pas toujours aussi entière, ou, pour mieux dire, aussi claire qu'au moment de la première manifestation et de celle que Dieu accorde à l'âme de temps en temps. Autrement, il serait impossible de s'occuper d'autre chose, et même de vivre parmi les humains. Les occupations viennent-elles à cesser ? Elles se retrouvent en cette agréable compagnie. Ce n'est pas tout. Non seulement l'expérience des trois personnes n'éloigne pas des autres, mais les occupations avec les autres ne la privent pas des trois personnes. Regardez la suite de notre texte. Si le degré de clarté n'est pas le même, l'âme cependant, chaque fois qu'elle est attentive, se trouve en cette divine compagnie. Prenons une comparaison. Une personne se trouve avec plusieurs autres dans une salle bien éclairée. On ferme les fenêtres. Elle reste dans l'obscurité. La lumière qui lui permettait d'apercevoir ces personnes ayant disparu, elle ne les verra pas jusqu'à la réapparition. Cependant, elle se rend compte qu'elles sont là. La sainte prend soin de préciser qu'elle ne jouit pas toujours de la présence actuelle des trois personnes. Mais pourvu, continue-t-elle, qu'elle ne soit pas infidèle à Dieu, jamais, à mon sens, il ne manquera de lui donner cette vue si claire de sa présence. De son côté, elle a une grande confiance que Dieu, lui ayant accordé une telle grâce, ne permettra pas qu'elle la perde, et elle a raison de le penser. Cependant, elle se comporte avec plus de circonspection que jamais, afin de ne lui déplaire en rien. Alors permettez-moi une interprétation qui n'engage que moi cette fois. Jusqu'ici, saint Thomas, concile de Florence, etc. Mais maintenant, ça n'engage que moi. Concernant cette actualité ou présence habituelle de la Trinité. Le plus souvent, sans doute, au milieu de leurs activités, les âmes favorisées de l'union avec Dieu propre au mariage spirituel jouissent de la présence du Seigneur lui-même. Sa majesté vit désormais en elle. Il dit cela au chapitre 3 des septièmes demeures. Présence habituelle. Et pourtant, on peut retrouver cette présence. Elle s'actualise alors. L'âme n'a qu'à y réfléchir pour se retrouver dans cette compagnie. Mais attention, l'âme peut y réfléchir, certes, mais Dieu n'est pas obligé de donner cette grâce. N'est-elle pas la plus gratuite des grâces ? Aussi, l'âme doit-elle se contenter d'une présence habituelle, qui ne représente pas une moindre union à Dieu. Elle continue, ne peut-elle pas refaire le jour afin de les voir de nouveau ? Non. L'âme n'a pas un tel pouvoir. Pour cela, il faut qu'il plaise à notre Seigneur d'ouvrir la fenêtre de l'entendement. Vous voyez la puissance de l'entendement qui est là, et qui, dès que l'entendement sera ouvert, évidemment, la vérité pénétrera et elle enflammera la volonté. Verbum spirans amorem, comme dira saint Thomas et saint Jean de la Croix à sa suite. Et Thérèse continue. C'est déjà une assez grande grâce qu'il lui fait de ne jamais s'éloigner d'elle et de permettre qu'elle en ait une certitude si entière. Tous les mots sont pesés. Quand le Seigneur le veut, l'âme est à nouveau unis actuellement par les vertus théologales à chacune des trois personnes divines et participe à leur vie de connaissance et d'amour. Elle ne peut pas être plus intensément unie à Dieu ici-bas. Elle l'aime de toutes ses forces en plénitude, actuellement. Vous voyez la différence entre habituellement et actuellement. C'est là qu'il y a une intensité d'activité de la part de l'âme. C'est pour ça qu'on parle du centre, l'activité la plus brûlante. Mais le reste du temps dans la journée, présence habituelle. Mais l'union n'est pas moindre. C'est ça qui est subtil. On comprend que Sainte Thérèse signale que la demeure de la Sainte Trinité en elle donne lieu à une demeure de l'âme en la Trinité. Car l'amour a pour privilège de faire habiter les amis l'un dans l'autre. Non seulement Dieu demeure en elle, mais Dieu est sa demeure. Dieu ne vient pas en passant, il demeure en elle et elle demeure en Dieu. Habituellement, comme Jésus l'avait annoncé d'ailleurs en Jean 15, 5, en qui je demeure et qui demeure en moi. Par cette grâce de la vision intellectuelle de la Sainte Trinité, l'âme, je vous le disais, est véritablement transformée en Dieu, en les trois personnes. Voilà sans doute la raison pour laquelle le Père Marie-Eugène a intitulé l'un des derniers chapitres de « Je veux voir Dieu » Union transformante. Normalement, sur la terre, les ressources de la grâce sanctifiante s'épanouissent jusqu'à ressembler à la Trinité. L'image parfaite ne doit être privée d'aucune des choses appartenant à la réalité qu'elle exprime, dit saint Thomas. L'image parfaite ne doit être privée d'aucune des choses appartenant à la réalité qu'elle exprime. Participation à la connaissance que Dieu a de soi-même. Participation à l'amour que Dieu a de soi-même. Au-delà, saint Thomas l'explique aussi, l'âme ressemble à Dieu, oui, mais par la vision face à face. Imago secundum similitudinem gloriae, solum in beatis. Nous sommes au seuil de la vision béatifique. Septième demeure, vision intellectuelle de la Sainte Trinité, actuelle ou habituelle. La vision intellectuelle de la Sainte Trinité, son habitation, n'est pas un incident de route, comme l'étaient les grâces extraordinaires des cinquième et sixième demeures encore. L'âme reste, entendons demeure, dans l'amour transformant qui la saisit, et qui continue son œuvre, écrit le Père Marie-Eugène. C'est à la page 973 de « Je veux voir Dieu ». Si la connaissance de la Trinité est habituelle, l'intensité de l'union, je vous le disais, n'est pas moindre que lorsque la présence de Dieu est plus claire, en acte. Elle est simplement habituelle, un peu dans le sens où saint Jean de la Croix l'expliquera dans le Cantique spirituel. Vous avez aussi ce texte majeur de saint Jean de la Croix. Cette âme travaille pour Dieu très fréquemment et s'occupe en lui et en ce qui le concerne sans penser ni se souvenir qu'elle le fait pour lui. Parce que l'usage et l'habitude qu'elle tient désormais en telle manière de procéder l'a fait manquer de l'advertance et du soin et encore des actes fervents qu'elle avait coutume d'avoir quand elle commençait à travailler pour Dieu. Le sens habituel de Dieu. Présence habituelle de Dieu. Examinons maintenant en quelques minutes les fruits de l'union avec les trois personnes divines. À ce stade de notre étude, on peut tenter un rapprochement avec la doctrine de saint Jean de la Croix. L'âme, parvenue à l'union transformante, aime Dieu non pas par elle-même, mais par Dieu. Par Dieu lui-même, par le souffle saint de Dieu. L'âme aime Dieu par le souffle saint de Dieu. Saint Jean de la Croix explique ça dans la vie flamme. Mais en aimant Dieu par-dessus tout, elle aime en Dieu les autres. Et en Dieu, tenons-nous bien, dans les deux sens de l'expression. Elle aime le prochain en Dieu, comme si elle était Dieu, en disposant de l'Esprit Saint, la nuée resplendissante qui vient droite en son esprit. Et elle aime le prochain comme s'il était Dieu lui-même, en Dieu. Le fruit de l'union parfaite, c'est d'aimer parfaitement les autres comme Dieu les aime, en participant à l'amour dont il les aime, dans le souffle brûlant de l'Esprit Saint. Et en réalité, si l'on reparcourt à grandes enjambées le chemin tracé par le livre des demeures, on voit que, au fur et à mesure que l'âme découvre la présence de Dieu et vit avec lui par l'oraison, elle peut commencer avec prudence à distribuer des fruits de son jardin. Mais voici la grâce de la métamorphose des cinquièmes demeures. On nous a parlé hier. C'est la grâce de la transformation de soi dans le Christ. Non plus la simple conformation au Christ que donne le baptême, mais la conformation au Christ total cette fois, au Christ en tant qu'il est la tête du corps mystique, l'époux qui aime son épouse, l'Église, comme son propre corps, comme l'insinue saint Paul aux Éphésiens. La découverte de l'Église, écrit le père Marie Eugène, procède d'une lumière d'amour. Vous les voyez là, les deux opérations de connaissance et d'amour. Procède d'une lumière d'amour qui pénètre toute l'âme, y crée un mouvement de fond et s'impose désormais à toute l'activité intérieure et extérieure. Ce mouvement de fond emporte toute l'âme et la livre tout entière à l'Église. Puis nous parvenons au sixième demeure, à un apostolat qui est le fruit de la perfection de l'amour. L'emprise de l'Esprit-Saint et la disponibilité de l'âme crée une collaboration pour la réalisation du grand dessein qu'est l'Église. Et enfin, sainte Thérèse écrit dans la relation du 29 mai 1571 à propos d'une vision intellectuelle de la Sainte Trinité que les trois personnes divines, vous avez ce texte, lui disaient qu'à partir de ce jour, par une faveur spéciale de chacune d'elles, je constaterai en moi des progrès sur trois points. La charité, la joie dans les souffrances et l'embrasement intérieur de cette charité. Inflammatio. Métamorphosé dans le Christ, ça demeure désormais, mais le Christ total. Après avoir subi les ultimes purifications des sixièmes demeures, Thérèse brûle d'amour pour l'Église. Le petit papillon est vraiment mort cette fois. Jésus-Christ est devenu sa vie. Ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Et elle peut désormais écrire, c'est là le but de l'oraison. Et ce mariage spirituel est destiné à produire continuellement des œuvres. De ces œuvres-là, entendons bien. Il reste quelques instants encore pour terminer. Eh bien, voyez, le point de départ de cette étude, c'était la parole de Jésus, si quelqu'un m'aime, à condition d'aimer Jésus. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, nous trois, avec l'Esprit Saint, et nous ferons chez lui notre demeure. L'inhabitation des personnes divines dépend de l'amour que l'on porte à Jésus. C'est évident, c'est Jésus qui le dit. Et voici que parvenu au terme du chemin, l'âme reçoit des personnes divines elles-mêmes d'aimer Jésus par un surcroît de zèle. L'amour pour Jésus est devenu amour pour le Christ total. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la métamorphose. On est loin d'une pensée qui concerne la grâce limitée à un jugement forensique qui ne change rien à la personne humaine. Quel changement extraordinaire intervient dans l'âme humaine. L'intimité qu'on est appelé à vivre avec Jésus. L'intimité qu'on est appelé à vivre avec Jésus, ce que nous avons vu et entendu, Ce que nous avons touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons, pour que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Quant à notre communion, elle est avec le Père et son Fils Jésus-Christ, sous-entendu, évidemment, avec l'Esprit-Saint. Tel est le jeu admirable du christocentrisme trinitaire de Thérèse de Jésus. On devrait mettre un point final à ces réflexions par quelques dernières confidences de Sainte Thérèse, n'est-il pas vrai, à propos du mariage spirituel. Vous avez ce texte. L'âme comprend qu'en elle, il y a un soleil, d'où procède cette brillante lumière qui, de son intérieur, va illuminer ses puissants, toujours la lumière, bien sûr. Pour elle, elle ne quitte pas son centre et rien ne lui enlève sa paix. On pourrait terminer avec ces paroles-là. Mais je me suis rappelé que Jean-Paul II avait publié un mois avant sa mort, on avait publié pour lui, quelques pages autobiographiques dans Mémoire et Identité. Perles très très rares. Les allusions autobiographiques de Jean-Paul II à sa propre vie mystique. C'est au chapitre 6 de Mémoire et Identité. Alors permettez-moi d'en lire quelques lignes qui décrivent, me semble-t-il, Sainte Thérèse elle-même dans toute sa splendeur que nous venons d'apercevoir. Étrange sommet où conduit la grâce de Dieu, la grâce sanctifiante, la doctrine de la grâce, Concile de Trente et de nos saints au Carmel. Étrange sommet où conduit la grâce de Dieu chez l'un et l'autre saint, docteur aussi, Jean-Paul II bien entendu, futur docteur de l'Église. Et regardez bien ce texte, vous l'avez sous les yeux. Avec le temps, dans la mesure où l'homme suit avec persévérance le Maître, qui est le Christ, il ressent toujours moins, à l'intérieur de lui-même, le poids de la lutte contre le péché. S'il n'y a pas de transformation dans la doctrine catholique de la grâce, eh bien, hein, tout ce que nous disons cette semaine, c'est nul. Mais Jean-Paul II l'a répété là, vous voyez, actualité du traité de la grâce sanctifiante. Regardez bien la transformation. Ressent toujours moins à l'intérieur de lui-même le poids de la lutte contre le péché, et il jouit toujours plus de la lumière divine qui envahit toute la création. Regardez la splendeur de cet envahissement de la lumière. Toujours illuminatio intellectu, inflammatio affectu. Cela est extrêmement important, car il est ainsi permis à l'homme de sortir d'une situation où il est constamment exposé intérieurement au risque de péché. Ce qui toutefois, sur terre, reste dans une certaine mesure toujours présent. On peut toujours tomber, bien sûr. Et vous voyez, on est au seuil de la vision. Et cette liberté lui est donnée afin de se mouvoir avec une liberté toujours plus grande au milieu de tout le monde créé. Il conserve également cette liberté et cette simplicité face aux êtres humains, y compris ceux de l'autre sexe. Un mot pour le Christ total, sans distinction. La lumière intérieure éclaire ses actes et lui montre tout le bien du monde créé comme provenant de la main de Dieu. Cette phrase extraordinaire. Lui montre tout le bien du monde créé comme provenant de la main de Dieu. Et on vit dans l'optimisme de la grâce, le triomphe de Dieu, l'amour de Dieu. De cette façon, la voie purgative et à son tour la voie illuminative constituent l'entrée naturelle dans la voie appelée unitive, l'union du mariage spirituel. C'est l'ultime étape du chemin intérieur, intériorité, celle où l'âme fait l'expérience d'une union particulière avec Dieu. Cette union se réalise dans la contemplation de l'être divin, ipsum deum, dirait saint Thomas, c'est-à-dire les trois personnes divines, et dans l'expérience de l'amour qui en jaillit avec une intensité croissante. Vous voyez toujours, lumière et amour. On anticipe ainsi, en quelque sorte, ce que sera la part de l'homme dans l'éternité, au-delà de la limite de la mort et de la tombe. Qu'est-ce qui se passe? L'homme trouve Dieu en tout. Il est en contact avec lui en tout et à travers tout. Les choses créées cessent d'être un danger pour lui, comme elles l'étaient, surtout lorsqu'il parcourait la voie purgative, première demeure. Les choses créées, et particulièrement les personnes, non seulement retrouvent leur lumière propre, cachée en elles par le Dieu créateur, mais si on peut s'exprimer ainsi, voyez le plus époustouflant, les choses créées, et particulièrement les personnes, rendent accessible Dieu lui-même, de la manière dont il a voulu se révéler à l'homme, comme Père, comme Rédempteur et comme Époux. Eh bien, les écrits, les œuvres de Sainte Thérèse et plus encore Sainte Thérèse elle-même, ne sont-ils pas de ces réalités créées qui rendent accessible Dieu lui-même de la manière dont il a voulu se révéler ?